Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. On cuisine l'histoire aux petits oignons ce matin avec un beau livre intitulé justement « Cuisiner l'histoire » qui associe habilement des moments de notre histoire à des recettes d'un autre temps qui commence avec les Mayas, grands consommateurs de maïs, pour s'arrêter à Churchill qui s'enfilait à l'aise un litre d'alcool par jour. Mais au-delà du plaisir de l'anecdote, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur cet acte, manger, qui embrasse tout à la fois le partage, la transmission, le besoin et le plaisir. C'est le quotidien qui rencontre l'essentiel. Et vous, racontez-nous ce que vous mangez, comment vous cuisinez, du frichti au petit plat dans les grands, 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter sur laquelle vous pouvez nous laisser des notes vocales. Et bonjour, Gwenaël Boulet.
Bonjour.
Ma vie de parent, c'est votre chronique tous les mercredis. Alors avec un jeu de mots complètement assumé, quel est le menu aujourd'hui ?
Je vais vous parler...
On fait ce qu'on peut.
Je vais vous parler cuisine, mémé et maman va faire un gâteau, mais toute seule.
Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Merci d'être avec nous. Grand bien vous fasse. C'est le mode d'emploi de la vie quotidienne.
France Inter, Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse.
Bonjour Thibaut Villanova.
Bonjour.
Ou bien devrais-je dire plutôt gastrono-geek, puisque
oui.
c'est le nom que vous utilisez, ce nom que les youtubeurs connaissent bien d'ailleurs, parce que c'est votre chaîne YouTube.
Exactement, alors à la base c'est le nom du projet, réunir la gastronomie et la pop culture. Puis dans le parler des gens sur les réseaux sociaux, c'est devenu la manière de me nommer. Je trouvais ça bien. Ça me faisait nom de super-héros, j'ai gardé. Voilà.
Vous êtes arrivé sans cap, mais avec un pull à capuche.
Exactement.
Alors vous voulez que je vous appelle gastronomique?
Non, vous m'appelez comme vous voulez, tant que c'est mon bon prénom ou mon bon surnom, il n'y a pas de souci. Thibaut,
bon.
C'est bien.
Thibaut. Alors Thibaut, et bonjour Benjamin Brio.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez votre nom de youtubeur, Nota Bene. Et là encore, les youtubeurs vous connaissent bien. Vous avez quasiment 2 millions, plus de 2 millions d'abonnés avec votre chaîne de vulgarisation historique. Donc, Nota Bene. Et tous les deux, vous publiez donc ce livre, Cuisiner l'histoire, où s'alternent à la fois le récit d'événements historiques, comme par exemple la guerre de Marathon durant l'Antiquité ou la fin des samouraïs. Mais comment, Benjamin Brio, on associe l'histoire à la cuisine?
L'histoire, elle se marie très bien avec absolument tout. Étant donné que moi j'aime bien la cuisine, justement, c'était l'occasion d'allier un petit peu les deux. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce livre Cuisine et l'histoire, on n'est pas sur de la cuisine historique, mais on est vraiment sur de la cuisine qui s'inspire de l'histoire. On a décidé vraiment de jouer avec l'histoire et de se servir du prétexte de l'histoire pour parler cuisine, proposer des recettes avec Thibaut qui vient ajouter son petit grain perso là-dedans, pour permettre aux gens de cuisiner des plats super sympas à la maison, tout en apprenant des trucs. Après, la gastronomie, depuis l'Antiquité, elle est présente. L'histoire de l'alimentation, elle est extrêmement riche, et y a déjà des bouquins qui existent là-dessus et qui sont tout à fait passionnants.
Oui, mais on n'associe pas comme ça forcément, de manière évidente, la cuisine et l'histoire.
Oui, alors, mais en fait, ça, je pense que beaucoup de gens se font une représentation très limitée de ce que peut être l'histoire. Mais l'histoire, en tant que telle, ça touche à tout. L'histoire, elle peut être sociale, politique, scientifique, économique, militaire et gastronomique. Vraiment, l'histoire, c'est la société. Donc, on peut vraiment parler de tout.
Comme la cuisine embrasse aussi de nombreuses thématiques, Thibaut Villanova.
Oui, c'est exactement comme le dit Benjamin. C'est-à-dire que typiquement, si on prend les exemples qu'on a voulu citer ou les épisodes historiques ou les personnages que Benjamin m'a confié pour que je les passe à la casserole, on parle de...
Deuxième jeu de mots. De l'émission.
On va en faire plein, c'est l'occasion. Moi, je dois en placer quelques-uns, je suis désolé. Non, mais dans l'idée, on parle de Talleyrand, sous Napoléon, Louis XVIII, et de son arme secrète, Antonin Carême. Lui, il faisait de la diplomatie à table. Pareil, François Ier, les Cotillacs d'Orléans, c'est encore des cadeaux qu'on fait aujourd'hui d'un point de vue diplomatique. Donc là, je parle de la France. On peut appliquer ça à toute l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. La gastronomie, c'est aussi un traceur de comment vivaient les gens et de comment ils survivaient aussi. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire. Comme le dit Benjamin, en s'inspirant, c'est-à-dire que Benjamin, il fait de la vulgarisation historique. Il amène les gens à s'intéresser à l'histoire et à comprendre le monde dans lequel on vit en répondant à ces questions. Moi, ce que je fais, c'est par le biais de la pop culture en général, l'histoire aujourd'hui, c'est de la vulgarisation de cuisine. Mon plaisir, c'est que les gens comprennent pourquoi on mange comme on mange et qu'ils se disent qu'ils peuvent aussi cuisiner et participer de tout ça.
Alors, par exemple, vous racontez l'histoire des derniers samouraïs.
Oui.
Mais comment vous emparez de ces samouraïs pour avoir l'idée d'une recette ?
Alors, pour le coup, c'est assez passionnant. Quand Benjamin m'a envoyé cette période-là, 1877, on est sur l'ouverture du Japon au monde. Et je choisis de faire le curry japonais, qui est un plat aujourd'hui totalement intégré à la cuisine du quotidien au Japon. Je suis passionné par le curry japonais. Le curry japonais, il fonctionne. Pourquoi ? Parce que les colons reviennent au Japon, avec la modernisation et tout ça du pays, l'ouverture au monde du pays, reviennent avec leurs épices et on se retrouve à manger des plats au quotidien comme le curry. Et le curry a littéralement été inventé et développé à cette période-là. Donc moi, mon propos, c'est de dire, bah regardez, voilà une recette qu'on mange aujourd'hui et qui a littéralement été créée, inventée, développée à ce moment-là. Et l'excuse, bah, c'est de donner plein d'infos là-dessus et puis de vous montrer comment faire à la maison.
Alors, allez-y, faites-nous saliver.
Ah bah, le curry japonais.
Allons-y.
Le curry japonais, ça ressemble littéralement à ce qu'on fait avec un bœuf bourguignon. On fait d'abord mijoter de la viande ou comme un pot-au-feu par exemple, avec des légumes, des carottes, des pommes de terre, une garniture aromatique très simple. En parallèle, on fait ce qu'on appelle un roux de curry, donc de la matière grasse et de la farine, un roux en fait, comme on ferait en France pour une béchamel, à laquelle on va ajouter tout un tas d'épices venues amenées par les colons anglais ou autres, comme le curry, le garam masala, tout ça, de la tomate. Aujourd'hui on en met du sucré, de la pomme japonaise pour lier, puis ensuite on va mettre ce roux dans le bouillon de la viande qui aura cuit pendant plusieurs heures et on servira ça avec un riz. Ça n'est pas bien compliqué, c'est relativement fabuleux.
Il manque plus que le son des aliments qui grésillent dans la poêle.
L'odorama, ouais, exactement.
Ça marche bien. Mais ce qu'on se rend compte aussi au-delà du plaisir des papilles, c'est que par exemple pour les Mayas qui ouvrent d'ailleurs le livre, c'est manger, c'est d'abord et comment cuisiner et comment faire son métier d'agriculteur aussi, c'est d'abord une question de survie, Benjamin Briot.
Oui, tout à fait. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est, alors, dans le bouquin, on traite de grands personnages, mais il y a aussi des périodes, il y a des peuples, il y a des événements, et on parle effectivement des Mayas et du maïs. C'est une relation qui est millénaire. Avec ce peuple-là, on dit souvent les Mayas ont disparu, etc. Bon, aujourd'hui, il y a les héritiers de ces civilisations-là. Hein. Et c'est vrai que le maïs, c'était au centre même de la culture et de la vie des Mayas. Les Mayas, c'est ceux qui cultivent le maïs, littéralement. C'est une plante qui va être domestiquée par eux. À la base, c'est issu de la théosinte, qui est une plante sauvage. Et aujourd'hui, en fait, on la retrouve plus. C'est-à-dire que le maïs, c'est une plante qui a été domestiquée et qui a été très largement utilisée par les Mayas, qu'on va retrouver dans leur mythologie d'ailleurs, puisqu'une de leurs divinités les plus importantes, c'est Yunkax, qui a justement une symbolique liée au maïs. Et ce qu'on montre aussi à travers ce chapitre-là, c'est que finalement, le maïs, il va falloir attendre pas mal de temps avant qu'il débarque en Occident. C'est-à-dire qu'il faut attendre la découverte du Nouveau Monde pour que, par les Occidentaux, pour que ce maïs s'impose petit à petit, avec difficulté d'ailleurs, en Occident, puisqu'il va être concurrencé, il va concurrencer le blé.
Ce que vous dites aussi d'ailleurs, ce que vous écrivez, c'est que le mot même Maya signifie ceux qui cultivent le maïs.
Oui, c'est ce que je disais. C'est vraiment, on est au cœur de cette civilisation-là où on était sur une culture qu'on appelle la culture des trois sœurs. En gros, on avait du maïs, du haricot et de la courge. Et ces trois aliments-là, en fait, quand on les cultive ensemble, c'est assez complémentaire. Alors moi, je suis pas un grand expert je fais pousser des tomates un petit peu chez moi, mais je pratique pas la culture des trois sœurs, voilà. Mais en tout cas, ça marche bien ensemble et ça, les Mayas l'avaient bien compris.
Ce que vous évoquez aussi les Grecs dans votre livre avec la bataille de Marathon. Alors je sais pas pour vous, mais moi quand je pense manger et antiquité, j'imagine les banquets immenses, les agapes, où c'est le plaisir qui domine, Thibaut Villanova.
On a, bien entendu, on a ça. Et d'ailleurs, on a traité avec la cuisine d'Apicius, tout ça, on en a parlé. Marathon, j'avoue que ça a été une recette compliquée. Parce qu'il y a aussi, chez les Grecs, dans l'Antiquité, une grosse dimension santé. Et c'était aussi le truc de dire, ils mangeaient énormément sain, parce qu'en fait les aliments étaient pensés comme ça. Et du coup, je voulais faire un truc gourmand. J'ai cherché un peu et puis au final on a totalement construit la recette pour le livre, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait des recherches pour savoir ce qu'on pouvait manger à l'époque, qu'est-ce qui était cultivé dans cette région du monde et comment aujourd'hui on le traduirait.
Alors ce que vous proposez d'ailleurs, c'est un mélange de fruits secs et d'épices et de céréales.
On a appelé ça un granolaton, voilà, tout bêtement, mais c'est littéralement ça. Et c'est super gourmand.
Mais ce que ça raconte aussi, c'est que les propriétés des aliments, puisque ces fruits secs permettraient, selon vous, aux marathoniens de courir ces 42 kilomètres et quelques, que les propriétés des aliments étaient déjà connues sous l'Antiquité, Benjamin Brio.
Sans aucun doute. Alors là, c'est vraiment la partie de Thibaut. C'est-à-dire que moi, je me décharge un peu sur lui. Et moi, je me chargeais vraiment du contexte historique. Alors là, Marathon, c'était l'occasion justement de parler d'un grand épisode de l'histoire de la civilisation grecque. Après, moi, je donnais cette matière à Thibaut qui va s'en inspirer, qui travaille sur le côté alimentation.
Oui, si je reprends la balle au vol. On sait que typiquement, tout le travail autour des termes, tout le travail autour du sport, on sait que tout ça c'était des valeurs qui étaient énormément développées. Et puis il y a aussi un héritage. Il y a un héritage. Par exemple, on parle aussi des Spartes, de Sparte et des Spartiates. On leur connaît une recette.
Les ennemis jurés.
Typiquement, on leur connaît une recette qui est celle du brouet sanglant. Enfin, je l'ai appelé comme ça. C'était un brouet fait à partir de sang d'animal. Et j'ai cherché à rendre ça gourmand. Bon, j'avoue, on a testé les recettes. On vous confirme, tout est très bon. On l'aurait pas mis dans le livre sinon.
Mais
la logique à l'époque, c'était pas que ce soit bon. Parce que si c'était bon, si c'était doux, ça pouvait vous rendre doux. Et il n'était pas question que ça vous rende doux. Fallait que ça vous rende fort pour partir à la bagarre, quoi. Et on a travaillé dans cette dimension-là. On a essayé d'ailleurs de faire les photos. Là, nos auditeurs peuvent pas le voir, mais il y a aussi un gros travail de respect des matières, de stylisme. Alors, on n'a bien entendu pas été chercher de la vaisselle du 5e siècle et compagnie. Hein. On a cherché des matières, en tout cas, et à travailler autour de ça, et de recréer des scènes en utilisant des objets liés à l'histoire, que ce soit des objets de mémorabilia ou des véritables copies par exemple pour Sparte, on a le fameux casque.
Mais est-ce que vous pensez que à l'époque de Sparte, on prenait du sang exprès pour se sentir plus fort?
Je pense oui, mais après à nouveau comme le dit Benjamin, nous on se dédouane pas d'une certaine responsabilité liée à tout ça. Moi je par exemple dans ce que je fais au quotidien, on me demande est-ce que tu as des recettes bonnes pour la santé? Moi je suis pas médecin. Alors j'ai conscience de ce que je cuisine, heureusement que j'ai conscience de ce que je cuisine, mais ma responsabilité elle est pas là. Et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que moi, je me suis intéressé à ce qu'on cuisinait, comment on le cuisinait. Je sais que typiquement, ils mangeaient. On peut croire qu'ils mangeaient le sang de l'animal pour en récupérer des propriétés et puis un certain esprit ou un voilà. Ça, on sait qu'il y a eu des croyances comme ça. J'avoue, moi, au niveau de ma recette, il a déjà fallu que je cuisine du sang et que je fasse un rôti avec. Donc c'est.
Gros. Ils étaient très rigoureux. Ils étaient très rigoureux dans leur approche. C'est clair. En tout cas, pour rebondir juste sur l'importance du sport et de la santé chez les Grecs, ça, on en a les traces à travers de nombreux sites archéologiques. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment tout ce sur quoi on a travaillé dans le livre. Thibaut, je lui avais partagé mon retour d'expérience sur le sanctuaire d'Asclépios, par exemple, qui se situe dans la ville d'Épidaure en Grèce, qui était un des plus grands sanctuaires médicinal, on va dire, de la Grèce antique. On venait de tout le bassin grec au sanctuaire d'Asclépios. Pour se faire soigner, il y avait des infrastructures pour faire du sport, il y avait des sortes d'hôtels, hein, en fonction si vous étiez riche ou pas, vous pouviez avoir les moyens d'avoir une chambre particulière, vous faisiez soigner, ça passait évidemment par l'alimentation aussi, hein, c'est-à-dire que vous aviez des conseils qui pouvaient être donnés pour assainir le corps, ça passait par l'esprit, puisque il y avait aussi un théâtre. On avait un vrai centre qui était dédié à la santé, à la médecine, et ça passait aussi par la nourriture.
Grand bien vous fasse aujourd'hui, revisite l'histoire par le prisme du gueuleton, et au standard, Siwen et Laura attendent vos recettes préférées, vos souvenirs de repas. Racontez-nous aussi le plaisir que vous pouvez avoir à découper les légumes en famille ou entre amis. 0145 24 7000 ou sur l'appli de France Inter. Et il est 10h20 et belle matinée à vous. So if you're lonely, Take Me A, téléguitare saturée et aiguisée de Franz Ferdinand. Toute la programmation musicale est à retrouver sur le site de l'émission.
L'idéal, ça serait pouvoir continuer à manger comme ça indéfiniment.
France Inter.
Bien sûr, ça serait magnifique.
Grand bien vous fasse.
À toi la caille, à moi le coquelet.
Thomas Chauvineau.
Deux youtubeurs aujourd'hui pour parler cuisine et histoire. Le passionné d'histoire Benjamin Brio qui a créé la chaîne YouTube Nota Bene et le chef cuisinier Thibaut Villanova alias Gastronogeek qui publie tous les deux ce livre que vous m'avez piqué.
Ah pardon, faut dire il est trop beau. Hein.
Cuisiner, c'est un très beau livre. Cuisiner l'histoire, 35 recettes aux éditions Hachette Heroes, on ne l'avait pas encore dit. Et puis sur France Inter, sur l'appli de France Inter, Anne nous a laissé ce message vocal.
Pour moi, c'est le lapin à la crème de ma grand-mère normande. Ma grand-mère avait un chien et elle allait beaucoup marcher. Et à chaque fois que le chien attrapait un lapin, eh bien, elle nous le faisait pour un repas de famille. Elle le faisait en crème, avec la vraie crème normande. C'était un vrai délice, avec des petites pommes de terre cuites à l'eau. Et on buvait du cidre. Et moi, je m'en rappelle, la famille se retrouvait, c'était un moment de bonheur. Tout le monde appréciait la bonne crème du lapin qu'on mangeait avec de la baguette. C'était un délice et c'était un moment de merveille.
Alors crème, cidre, je ne l'ai pas précisé, mais Anne nous a appelé de Honfleur en Normandie, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a cette presque poésie liée à la transmission aussi dans la cuisine, Thibaut Villanova.
Je suis pas convaincu qu'il y ait ailleurs dans le monde autant d'amour pour ce que la gastronomie nous apporte. C'est-à-dire que on est le pays de la gastronomie, c'est reconnu mondialement. Il y a des pays comme le Japon ou la Chine qui vont nous talonner un petit peu sur ce patrimoine-là. Mais nous, en France, on a ce souvenir d'une personne que je ne connais pas m'a touché. Pourquoi? Parce qu'il en a appelé d'autres. Pourquoi? Parce que je connais bien le goût de cette crème, le goût de ce cidre et le goût du lapin. Et ça me parle. Et c'est, moi, je fais ce métier pour entendre ça. Hein. C'est tous les jours. Hein. C'est juste passionnant. C'est juste, ouais.
Sur Facebook, Magali nous écrit, moi, j'aime cuisiner la soupe de tout à tout et par tous les temps. J'ai toujours vu de la soupe à tous les repas quand j'étais enfant, au petit-déj, au souper. C'est une de mes madeleines de Proust, réconfortante, nourrissante, parfumée, créative, universelle, inventive. La soupe a toujours été sur nos tables depuis des décennies et partout dans le monde. J'imagine que vous allez non pas confirmer ou infirmer Benjamin Brio, mais c'est vrai que il y a cette intimité qui nous lie à ce qu'on mange.
Mais oui, c'est évident. Et puis, comme on le voit là, dès qu'on commence à parler de bouffe, ça fait appel à des souvenirs, à de l'intime. Moi, effectivement, en écoutant ce témoignage-là, tout de suite, je repense à ma grand-mère qui nous a quittés il y a plus de 20 ans maintenant. Et quand je pense à elle, la première image qui me vient en tête, c'est les tomates qu'on faisait ensemble et sa fameuse sauce vinaigrette, qui est un graal que je ne retrouverai jamais. Et donc, je suis toujours à la recherche de ça. Je pense aussi au poulet frites basiques du dimanche midi. Voilà, ça c'est des souvenirs qu'on partage tous en commun et effectivement ça fait appel à l'émotionnel, à des choses qui nous touchent et qu'on a essayé de mettre dans le livre à travers l'aspect gastronomie mais aussi à travers le côté histoire. C'est-à-dire que par exemple tout à l'heure on parlait du dernier samouraï, ça fait aussi appel à un affect puisque la chute des samouraïs, ça fait appel au film Le Dernier Samouraï que tout le monde connaît maintenant. Et c'est vrai que on essaye d'avoir un pied déjà, de mettre les gens à l'aise avec les sujets qu'on va pouvoir traiter et de rendre tout ça très accessible, très proche finalement.
Après, si je dois aller plus loin sur ce côté-là, à nouveau, hein, je suis pas scientifique, spécialiste du cerveau, mais la cuisine, c'est en tout cas, on travaille nos plats en cuisine pour que ça fonctionne d'un point de vue organoleptique, c'est-à-dire que ça fasse fonctionner un maximum nos sens. Et on sait typiquement que les odeurs ça déclenche des choses dans le cerveau. On sait que la vue de tout ça et le plat de le lapin à la crème qu'on a entendu tout à l'heure, je l'ai pas mangé mais il en a appelé d'autres, j'en ai vu quoi. Ça fonctionne vraiment aussi comme ça intimement, on est lié à ça. On salive, tout se met en place quand une assiette arrive, on mange avec les yeux, on mange avec le nez, ensuite il y a la rétro-olfaction, tout ça se met en place et ça fonctionne bien pour nous donner envie de manger.
Il y a les sens mais il y a aussi l'émotion.
Oui, bien sûr. Le corps humain, il fonctionne super bien, par exemple. Pourquoi au Japon, on s'intéresse à dresser les plats correctement? Pourquoi en cuisine, on s'intéresse à dresser les plats correctement? On sait que notre ventre, hein, c'est le deuxième cerveau. Typiquement, si vous vous présentez correctement le plat, vous vous mettez déjà en appétit. Vous vous préparez à ce que vous allez absorber et vous vous dites à votre corps que ça va être bien pour lui. Vous commencez à saliver, la salivation ça facilite la digestion, et tout ce système fonctionne parfaitement, et vous ressentez des choses. Moi j'en parle là, enfin après la cuisine c'est mon truc, hein, mais...
Oui mais c'est voilà. Vrai, vous semblez avoir la chair de poule.
Ouais.
Alors la radio donne aussi ses recettes, comme vous le faites dans votre livre, hein. Il suffit d'écouter évidemment François-Régis Gaudry tous les dimanches de 11h à midi, on va déguster pour avoir l'eau à la bouche, et peut-être aussi la chair de poule. Mais l'ORTF également, en 1958, proposait déjà ses recettes, et ça aussi, c'est une plongée dans l'histoire.
Il s'agit du bœuf bourguignon grand-mère. Il faut pour le réussir le respect des souvenirs familiaux et 1200 grammes de macreuse ou de gîte à la noix. Des couennes bien sûr, des os de veau, des légumes que j'énumérerai tout à l'heure, du vin rouge de Beaujolais, du cognac. À ce stade, vous ajoutez de l'ail, de rechef de la mignonnette, couvrir, laisser cuire 2 heures mais doucement, découvrir, et vous allez maintenant sortir les morceaux un par un de la braisière et les ranger sur un plat chaud au coin du four pour que la sauce continue à chantonner.
La sauce qui chantonne. Vous l'entendez chanter la sauce quand vous cuisinez?
Bien sûr.
Et ça fait quoi une sauce qui chante?
Alors ça c'est dur là, vous me demandez les automates des onomatopées. Non mais on parle de typiquement quand on fait un beurre noisette ou compagnie, on parle du beurre qui chante, qui crisse, qui rissole. C'est pourquoi? Parce que vous voyez, on fait encore fonctionner notre oreille alors que fondamentalement on va manger. Non, je vous le ferai pas.
Essayez.
Non, j'ai jamais essayé de le faire.
Benjamin Brio, vous savez ce que ça fait que
tu sais faire glouglouter une sauce qui mijote?
Ouais, on l'a fait mijoter ou là on est sur un feu fort?
Allez, ça, vas-y, ça un gros bouillon. Envoie un gros bouillon.
C'est chelou ton bouillon. Alors là, on va pas donner envie aux gens.
C'est une bonne tentative. Sur Facebook, Violette nous dit: tout en faisant la cuisine, je vous écoute et je me souviens les bottereaux de mon grand-père, les paupiettes spéciales de mon père, les petits gâteaux de Noël, recettes transmises à mes filles, héritage d'amour, puisque nos recettes héritées sont des mots d'amour qui ne finissent pas. L'amour, point de suspension, nous dit Violette. Voilà encore de quoi vous faire frissonner.
Ah mais oui, totalement. Moi, je suis fils de boulanger. Le travail du pain à la maison, le travail du geste juste et tout ça, c'est venu comme ça. Et c'est la cuisine, l'histoire. C'est assez marrant. Moi, je viens de la pop culture. Je le dis régulièrement parce que la pop culture et la cuisine ont en commun qu'il y a une histoire de tradition et de transmission. Et c'est en ça que le projet Cuisiner l'Histoire est né, que ça paraissait évident. C'est-à-dire que vraiment, je raconte, un matin je me lève, je prends mon café devant une vidéo de Benjamin et je me dis mais à quel moment on s'est pas appelé pour mettre nos savoir-faire en commun et voir s'il peut pas se passer quelque chose. On s'est passé ce coup de fil et ça a paru une évidence un peu à tout le monde et à toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Et c'est venu comme ça.
Ce n'est pas vous qui allez nous dire le contraire, Gwenaëlle Boulet, puisque vous êtes rédactrice en chef de Pomme d'Api, mais Ma vie de parent, c'est votre chronique, et ça va parler de votre grand-mère.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous, hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Donc aujourd'hui, vous avez prévu de nous parler cuisine, vous aussi.
Et oui, quand vous m'avez annoncé que ce mercredi, nous parlions de cuisine, je me suis dit que c'était un signe. Parce que figurez-vous qu'hier, j'ai enterré ma grand-mère. Et que ma grand-mère, Mémé Simone, eh bien, c'était la reine de la poulerie, la princesse des asperges sauce mousseline, la déesse de la terrine au lapin. Et en fait, j'ai compris assez récemment que dans ma famille maternelle, la cuisine était un véritable langage d'amour. Et qu'on se disait vraiment « je t'aime » à coups de blanquettes de veau, de divines tartes aux poireaux, plutôt qu'avec des effusions de gestes ou de mots.
Du coup, je suis touché par ce que vous nous dites sur votre grand-mère. Donc, vous avez hérité de ce goût pour la cuisine?
Oui, enfin, avec beaucoup moins de talent, hein, quand même. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les
pas la poule au pot de la poulerie de Mémé Simone.
Ah, moi, c'est la poulerie, j'adore. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les parents ont leur petite fixette. Certains vont se focaliser sur le port de l'écharpe, même aux abords de l'été. Ou d'autres sur la nécessité de prendre l'air au moins une fois par jour. Eh bien, moi, ça a très vite été les repas. Par exemple, je me souviens de la première purée de légumes de ma fille. Bon, à quelques années de recul, on peut se dire que l'enjeu était assez limité, n'est-ce pas? Et pourtant, pour moi, ce jour-là était un jour empreint d'une grande solennité. Oui, il fallait que je trouve la meilleure courgette bio de toute la ville pour confectionner cette purée. Et alors que ma journée avait finalement pris une sale tournure, que raisonnablement j'aurais dû renoncer à ce projet, je me souviens m'être mise dans un état pas possible pour honorer cet engagement, pris uniquement avec moi-même. Mais pas de faire ce jour-là, pas de faire hier, non, demain, non, ce jour-là, il fallait que je fasse cette purée. Bon alors, ok, il y avait peut-être une question un peu d'hormones dans tout ça, de manque de recul sur les priorités de la vie, mais même si je me suis ensuite apaisée sur les purées, eh bien après, ma fixette s'est posée sur les gâteaux du mercredi.
Vous vous mettez trop de pression, je pense. Mais pourquoi les gâteaux du mercredi?
Ben oui, le mercredi, alors qu'une fois que je vous ai quitté, ma journée ressemble à une vie de chauffeur de taxi mêlé d'un standard téléphonique, je sais pas pourquoi, je me fais un point d'honneur à faire un gâteau. Comme si la douce odeur du gâteau cuit au four suffisait à m'assurer une place au paradis des mamans. Qu'elle me libérait aussi, peut-être, d'autres obligations parentales. Alors, j'imagine qu'un psychanalyste m'aiderait en 2 ans de séance à accoucher de l'idée que j'occupe ainsi mon rôle de mère nourricière. Et c'est fort possible. Mais, comme j'ai des gâteaux à faire, j'ai pas trop le temps d'aller chez le psy.
Du coup, vous préférez cuisiner avec vos enfants ?
Et non, malheureusement. Non. En fait, j'adorerais adorer ça. J'adorerais ressembler à ces couvertures de livres de cuisine où la maman semble au comble du bonheur avec son fils ou sa fille qui pétrit tout aussi extatique de la pâte gâteau avec ses petits doigts boudinés. J'adorerais être Roxane sur YouTube qui concocte avec sa fille Louane de sublimes pâtisseries tout en gardant le sourire et une cuisine immaculée. Oui, je sais, c'est tellement bien de cuisiner avec ses enfants, mais non.
On peut en mettre partout aussi, c'est ça qui est drôle quand même. Hein.
Car comme souvent, oui, sur le terrain de la parentalité, dans ce domaine, il y a une arnaque totale sur la marchandise. Hein. Car s'il est vrai que les petits adorent faire la cuisine avec nous, que ça leur apporte autonomie, sensorialité, fierté, eh bien moi, c'est plutôt aller jouer et je vous rappelle quand c'est cuit. Car ce qu'on vous dit pas, c'est que pour produire un modeste gâteau au chocolat avec votre petite 4 ans, il y a ensuite pour 1 heure de rangement, si tout se passe bien, si le pot de farine ou de sucre n'est pas tombé par terre, si le bol de beurre fondu n'a pas dégouliné le long du placard, si le numéro 3 n'a pas refait entièrement la cuisine et les couloirs avec sa main pleine de chocolat fondu. Bon, alors bon, si comme moi, vous n'avez pas un plaisir dingue à partager votre four avec vos bambins, je vous propose de vous motiver avec un objectif très égoïste. Celui de les imaginer dans quelques années faire tout seul leur gâteau pour la fête de l'école. Ça y est, vous l'avez la belle promesse ? Allez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai un gâteau à faire.
Oui, et puis peut-être à nettoyer la cuisine quand vous laisserez les enfants faire. Mais c'est vrai que, merci hein, Gwenaëlle Boulay, votre chronique est à retrouver sur le site de France Inter, évidemment, à la page Grand Bien Vous Fasse. C'est vrai, Benjamin Briot, qu'il y a aussi cette cuisine qui est liée à une histoire, alors pas cette fois la grande histoire, mais l'histoire familiale. On a ce témoignage de Gwenaëlle qui a commencé sur sa grand-mère, on a ce témoignage d'auditeurs et d'auditrices de France Inter qui nous racontent que c'est bah voilà, mon père qui cuisinait comme ça, ma grand-mère qui cuisinait comme ça. Il y a l'importance de l'histoire familiale.
Oui, évidemment, je le disais aussi avec ma propre grand-mère. Et puis, il y a cette, comme le disait Thibaut, il y a cette histoire de transmission. Nos grands-parents nous ont transmis des recettes qu'on essaye de reproduire. Et souvent, on n'est pas satisfait parce qu'on n'arrive pas à le reproduire comme ça l'était. Et puis, finalement, on développe nos propres recettes. Et moi, il y a une certaine satisfaction, en fait, de me dire de mon côté, quand on cuisine même avec ma femme, de se dire, bah, on est en train de faire des bons petits plats et on voit que nos enfants, parfois, ils se disent, waouh, ça c'est super bon, et de se dire que ça c'est en train de générer des souvenirs qui potentiellement dans quelques années vont provoquer exactement la même chose quoi. Ils vont avoir envie de refaire ces recettes là, de les partager et de les faire même découvrir à leurs amis. C'est-à-dire que c'est vrai que même quand on invite des amis à la maison, on leur dit attendez, moi je vais vous faire le couscous de mes grands-parents, vous allez voir, c'est pas le même que le vôtre hein. Voilà, il y a cette fierté familiale quoi du partage.
Alors vous parlez d'amis, Denis nous appelle au 01 45 24 7000 pour nous parler d'une recette qui revient à la mode et qui vous a surpris. Denis, bonjour.
Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous entendre.
Eh ben nous aussi.
Voilà. Écoutez, bonjour à tous, et oui, je voulais témoigner sur un fait qui est arrivé cette semaine. J'avais une envie, désolé pour les véganes, mais j'avais envie d'une tête de veau. Voilà, j'avais envie d'une tête de veau, mais le problème c'est que je suis seul, donc c'est compliqué. Donc, j'ai commencé à téléphoner à droite, à gauche pour trouver des gens qui. Des amis.
Et, que vous vouliez embarquer dans votre, dans votre projet culinaire.
Ouais, complètement, ouais.
Et voilà. Vous avez trouvé facilement ?
Ah bah, alors, je suis débordé. Je suis débordé. De une personne, je vais retrouver à 12. Voilà, pour une simple une tête de veau grébiche, quoi. Voilà, donc.
Et alors, vous l'avez faite ou pas? Est-ce que vous avez déjà partagé ce moment ou c'est en projet?
C'est plus qu'un projet.
Ils montent un restaurant là.
justement, là, je vais commencer à aller acheter mes légumes. Voilà, pour je suis un petit peu débordé là, quoi.
C'est vrai que c'est surprenant. Alors Thibaut Villanova, je sais pas, ouais. La tête de veau, vous n'en parlez pas dans le bouquin, mais
non,
bon, c'est une recette que vous connaissez.
Bien sûr.
C'est modes qui s'en vont, qui reviennent.
Alors la tête de veau, il y a un truc, c'est un peu, c'est pas tant une mode qui s'en est allée parce qu'à un moment donné, les restaurateurs ils font avec le public qu'ils ont et puis on la commande moins. En revanche, il y a des institutions à Paris où on n'a jamais arrêté de la faire. Et par exemple, on voit un retour. Il y a une institution à Paris qui a jamais bougé, rue Montmartre, c'est le Bouillon Chartier. Depuis quelques années, là reviennent les différents bouillons et même des restaurateurs qui investissent et des patrons de groupes d'Horeca qui investissent dans les bouillons et dans l'idée de faire du bien, bon, pas cher. Et du coup, de travailler ces trucs-là chez Julien ou chez Chartier, vous avez de la tête de veau quotidiennement et elle est sublime. On va y aller, elle est pas chère.
Mais, bravo pour la pub au passage. Merci Denis en tout cas de votre appel et puis bah bonne tête de veau quand vous serez avec vos amis, profitez-en bien. Merci à vous.
Super, merci.
Bonne journée et comme au Denis, hein, au revoir. Comme Denis, n'hésitez pas à nous appeler 01 45 24 7000 pour nous faire part de vos recettes, de vos envies, de vos plaisirs culinaires. Il est 10h40 et vous êtes bien sur France Inter. Bravo.
Tourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Mais cet instrument presque magique qui est l'auto-harpe Sequoia, c'est le titre de la chanson.
C'est sa cuisine. Vous avez goûté sa cuisine?
France Inter.
Son bœuf en daube, son stock-office, ses pieds paquets, maison.
Grand bien vous fasse.
Et sa bouillabaisse.
C'était des boîtes.
Des boîtes?
Thomas Chauvineau.
Avec deux youtubeurs aujourd'hui, l'un est féru d'histoire, Benjamin Briot, l'autre est chef cuistot, Thibaut Villanova. Vous cuisinez en musique, Thibaut?
Quotidiennement, non-stop. Ouais, vraiment. Je cuisine au casque quand je suis tout seul. Vraiment.
Et est-ce que ça influence votre façon de cuisiner? Est-ce que vous, quand vous écoutez du hard rock bien dur, vous faites des plats plus tendus?
Quand j'ai besoin de faire des plats mijotés, moi je cuisine quotidiennement, j'invite les gens à le faire pour me recentrer. La cuisine, c'est un truc que vous faites en étant à ce que vous faites. Vous pouvez pas faire autre chose, sinon vous coupez, vous brûlez ou machin. Et moi,
écouter France Inter aussi.
Mais qu'est-ce qui vous dit que j'écoute pas France Inter de temps en temps?
Je sais pas.
Pour voir si on parle pas de mes livres, bien entendu. Mais... non, mais plus sérieusement, oui. Bah, typiquement, l'un des grands moments, moi, de ma carrière en tant que cuisinier, c'est que j'ai écrit mes premiers livres en écoutant les BO d'Edouard Romain d'Argent, la musique de Danny Elfman, grand compositeur pour le cinéma et pour Tim Burton spécifiquement. Et j'ai été amené à cuisiner pour lui lors de ses venues à Paris pendant 2 ans. Parce que justement je faisais ce que je faisais. Donc les gars se disaient, bon, il veut un cuisinier un petit peu, et je cuisinais du Tim Burton pour Danny Elfman. Et c'est assez fou de pouvoir lui dire, je suis hyper heureux de cuisiner pour vous, parce que ça fait de toute ma vie que j'écoute votre musique, et quand je cuisine, j'écoute votre musique. Donc il y a juste une espèce d'alignement de planète qui se fait. La musique, ça aide à se centrer aussi. Ça libère le cerveau d'un truc, et on peut cuisiner à ce moment-là.
Vous cuisinez avec vos enfants en musique, quand vous osez le faire.
Mais quand vous dites, c'est un moment, par exemple, moi je sais que c'est ma bulle de décompression.
Bien sûr.
Quand je rentre, le coupage d'oignon, par exemple.
Mais bien
sûr. Le coupage
d'oignon
est un moment où tout à coup, effectivement, votre cerveau se libère, personnellement. On est dans le geste. Et puis le moment où on le met à cuire dans le beurre, là, etc., ce petit oignon. Moi, personnellement, voilà, ce petit moment de couper les légumes est un moment qui me déstresse et qui me permet de faire une bulle de transition. J'aime beaucoup.
C'est vraiment comme ça qu'on peut faire. Moi, j'entends quotidiennement. Moi, mon combat au quotidien, c'est répondre aux gens qui disent on n'a pas le temps. On a le temps de toute façon, on n'a pas le temps, on le possède pas, on a le temps de rien. On prend le temps. Et je cuisine dans des toutes petites cuisines sur 1 mètre carré pour montrer qu'on peut quand on est étudiant. J'essaie de trouver des solutions, quoi. Et prendre le temps de cuisiner, c'est prendre du temps pour soi, prendre du temps pour le partage, pour les enfants, pour la famille, pour les potes. C'est faire des économies. C'est hyper sain, quoi. Et pour la tête, c'est vraiment bien parce qu'on doit être à ce qu'on fait.
Nous sommes aussi au téléphone avec Éric Birlouez. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, vous intéressez également à la sociologie et à l'histoire de l'alimentation, et vous avez publié De la préhistoire à la Première Guerre mondiale, et là vous enseignez, vous êtes à Lille, hein, je crois, et vous nous appelez entre deux cours. Lille,
oui.
Qui est un peu le pays de la moule frite, entre autres. Hein. Et il se trouve que j'ai lu que vous aimiez les moules, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant que vous aimiez les moules, c'est formidable d'aimer les moules, mais c'est que dans votre livre Que mangeaient nos ancêtres, on apprend notamment que déjà les hommes préhistoriques se nourrissaient de moules.
Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que d'abord, il faut rappeler que nous sommes des omnivores, donc tout ce qui était bon à prendre, nous sommes des omnivores opportunistes, eh bien, était pris. Et c'est vrai que les premiers hommes préhistoriques n'avaient pas encore la capacité à chasser des grands animaux. Ils ne savaient pas faire. Et donc, ils avaient une alimentation qui était incroyablement diversifiée. Et là où il y avait des moules, bah, évidemment, on n'allait pas laisser passer l'aubaine de manger des moules comme on pouvait consommer des escargots, des grenouilles. Vous voyez, des petites proies animales, la moule est un animal facile à attraper, sans parler évidemment des fruits, des baies, des herbes sauvages, etc.
Mais quand on a des menus comme celui du Titanic, que vous rappelez dans votre livre, quand on a des représentations comme celle des Mayas, où en effet on les voit récolter le maïs, on sait comment se nourrissaient nos ancêtres. Mais pour les hommes préhistoriques, on a assez peu de traces. Alors comment on sait que les hommes préhistoriques, Éric Boulouez, mangeaient des moules?
Oui, on a pu trouver sur certains sites archéologiques des accumulations de moules qui montrent que, bah, évidemment, elles sont pas venues là par hasard. Ce sont des tas de coquilles que les hommes ont fait. Alors effectivement, pour la préhistoire, on n'a pas de témoignages oraux, on n'a pas non plus de textes par définition, mais on a les poubelles de l'histoire, ou plutôt de la préhistoire. Donc on fait des fouilles archéologiques et puis on va retrouver, par exemple, des morceaux de mâchoire, des morceaux de dents, la forme et la taille des dents et des mâchoires, va nous renseigner. Ce qui va renseigner également, c'est l'analyse chimique que l'on fait, par exemple, des os, pas seulement des dents, et on va voir des choses comme le rapport entre deux atomes, le strontium et le calcium, et on sait que quand le rapport est très élevé, bah, ça veut dire que les gens, ils mangent beaucoup de végétaux, et l'inverse, évidemment, ils en mangent peu quand il y a beaucoup de calcium et pas beaucoup de strontium. On a aussi les microscopes à balayage électronique qui nous permettent de voir, qui permettent aux experts de la chose de voir les stries d'usure que les aliments ont causées sur les dents. Si les stries sont verticales, journée longue, ça veut dire une alimentation riche en produits carnés, en viande notamment. Et si au contraire les stries sont horizontales, ça veut dire une alimentation qui est riche en végétaux. Donc on a beaucoup de comme ça d'indices un petit peu éparpillés qui permettent en partie de pallier le manque de sources
écrites. Benjamin Brio, sur votre chaîne YouTube Nota Bene, pour l'instant l'alimentation préhistorique, vous ne l'avez pas encore abordée.
Ah non, c'est vrai que c'est pas encore un truc qu'on a abordé. Alors par contre, on a abordé un petit peu de cuisine médiévale avec Fabien Müller, qui est vraiment un historien et un gastronome absolument hors pair. En plus, moi j'habite à Tours, et à Tours il y a un truc vraiment génial.
C'est vrai.
L'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, l'IEHCA, et vraiment c'est un des centres les plus pointu au monde, en fait, sur la recherche de l'histoire de l'alimentation. Il y a plein de gens formidables là-bas, et on avait eu la chance avec Fabien de pouvoir tourner une recette qu'on a cuisinée dans les murs de l'IEHCA sur la fève-au-lard. Notamment, voilà, la fève-au-lard, ça c'était un bon moment de partage. On avait été cuisiné aussi à Loche, dans la cité royale de Loche, où on avait pu expérimenter des saucisses porées blanches, voilà, du pâté de char aussi, qui est une espèce de pâté en croûte absolument délicieux. Voilà. Donc, on a fait un petit peu de cuisine, mais là, je dois dire que bon, on est sur autre chose avec Thibaut, oui. et c'est ça qui est cool aussi, quoi.
Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il n'y a pas que les mâchoires qu'on peut décortiquer pour savoir ce que mangeaient les hommes et les femmes préhistoriques, Eric Birlouez, mais il y a aussi les excréments fossilisés qui en disent long sur notre alimentation, hein, ce qu'on appelle les coprolites, les caca fossilisés, donc, hein, qui donnent énormément d'informations aux archéologues.
Oui, ça donne beaucoup d'informations. On parlait aussi des dents, mais il y a également l'analyse par microscopie électronique du tartre des dents. Enfin, puis il faut pas l'oublier.
On connaissait l'analyse faciale, il y a aussi l'analyse fécale, quoi.
Oui, et puis on retrouve par exemple des grains de céréales carbonisés, donc ils se sont conservés, des pollens, et ça renseigne également sur les plantes locales, là pour le coup, qui étaient consommées par les hommes de la préhistoire. Donc on a beaucoup de manières et de sources différentes pour essayer d'approcher quelque chose qu'on ne pourra évidemment jamais connaître de manière détaillée.
Est-ce qu'on supporterait aujourd'hui le régime alimentaire de nos ancêtres?
Écoutez, alors c'est vrai qu'il y a eu, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, un petit peu une mode qui revient un peu aujourd'hui. On parle de régime préhistorique ou de diète paléolithique. Alors d'abord, ça n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où la préhistoire, c'est 2,4 ou 2,8 millions d'années. Ouais. Donc ça a eu le temps de changer, les régimes alimentaires, pendant cette période-là. Ça dépend des régions dans lesquelles on se trouvait, c'est-à-dire que les hommes de Néandertal, en Europe glaciaire, ils mangeaient beaucoup, mais pas seulement, mais beaucoup de viande. Parce qu'en hiver ou quand il fait froid, il n'y a pas beaucoup de végétaux à se mettre sous la dent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on mangeait comme les hommes du paléolithique, donc avant l'agriculture et l'élevage, au néolithique, on ne mangerait pas de céréales, on ne mangerait pas de légumes secs, on ne mangerait pas de lait et de produits laitiers, car ce sont des aliments qui n'ont vraiment été consommés qu'à partir du moment où l'homme a domestiqué les animaux et les plantes sauvages. Et ça, c'est très récent. C'est 11-12 000 ans dans une histoire de l'humanité qui a au moins 2,5 millions d'années.
Ce que vous racontez aussi, Eric Birlouez, c'est que aujourd'hui, la nourriture est devenue une espèce de bien de consommation abondant, standardisé, et que finalement, il faudrait presque qu'on retransforme et on revienne à d'autres types de valeurs par rapport à nos assiettes et ce qu'on y met dedans.
Oui, moi je crois que c'est très important, et c'est comme ça que j'explique une grande partie du gaspillage alimentaire dont on parle beaucoup aujourd'hui. Alors dans nos pays, il faut pas oublier qu'il y a 800 millions de personnes qui ne mangent toujours pas à leur faim sur la planète. Mais si on gaspille de la nourriture, c'est juste parce qu'on n'accorde plus à la nourriture de valeur, quelque chose qui a de la valeur, vous gaspillez pas, bien évidemment. Et quand je parle de valeur de l'alimentation, je mets ce mot au pluriel, les valeurs de l'alimentation. On a oublié, parce qu'on vit dans une société d'abondance, comme vous le disiez, on a oublié la valeur vitale de l'alimentation, il faut manger pour vivre, tout bêtement. On a oublié la valeur humaine, on l'a un peu redécouvert avec le confinement, c'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tout au long de la chaîne alimentaire qui aboutit à ce que l'on ait des aliments dans notre assiette. Il y a la valeur sociale, elle n'a pas disparu en France, mais de plus en plus souvent on mange seul par nécessité, finalement, en tout cas à l'heure du déjeuner, le plus souvent. Il y a également une valeur, bien sûr, symbolique et sacrée de l'alimentation. La valeur monétaire a également diminué, puisqu'aujourd'hui, je rappelle qu'en France, en 1960, c'était le tiers du budget d'un ménage qui était consacré aux dépenses alimentaires. Aujourd'hui, c'est 18% quand on compte l'alimentation à domicile, hors domicile, etc. Donc, voilà, l'aliment a beaucoup perdu de ses valeurs. On ne sait plus ce que l'on mange. C'est pour ça qu'on gaspille. Et je pense que ce serait vraiment important de redonner de la valeur à l'alimentation et de payer au juste prix ceux qui la produisent.
Benjamin Briot, je vous vois hocher de la tête.
Oui, oui, et puis en plus, si je peux apporter mon grain de sel à tout ça, Baloumtou...
C'était un jeu de mots, ça aussi, hein, ça fait le troisième de l'émission.
Oui, il y en a d'autres hein, qu'on peut faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme le disait monsieur, la standardisation fait qu'il y a aussi pas mal de variétés de produits qu'on ne peut pas forcément retrouver de manière très facile dans les supermarchés. Alors, il y a une mode qui revient avec voilà où on commence à avoir un peu plus de choix, mais c'est compliqué. Et si on revient un petit peu à l'histoire, faut pas oublier non plus que les goûts ils ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a notre propre goût. On pourrait tout à fait remanger ou reboire quelque chose qui a vraiment été fait au Moyen-Âge, mais le goût n'est vraiment pas le même. C'est-à-dire que la piquette que s'envoyaient François Ier et Léonard de Vinci, si aujourd'hui on devait la boire, je suis pas sûr qu'on y trouverait énormément de satisfaction. Hein, c'est le les goûts ne sont pas les mêmes.
Alors justement, puisque vous parlez cette cuisine un peu ancestrale, je voudrais vous faire écouter le son d'une femme qui n'est pas du tout ancestrale, qui savait donner de la valeur à la cuisine et aux produits, mais qui nous permet aussi de nous replonger, en tout cas pour certains d'entre nous, dans notre enfance.
Maïté, nos invités aujourd'hui, c'est un très joli couple. Hein ?
Ça, c'est le plus beau coup de fusil pour un chasseur.
Ce sont des faisans.
On va faire le faisan de nos forêts.
Par quoi commencez-vous ?
Par nettoyer mes jolies cèpes. Là. Allez, cuisez mes petits-enfants.
Un petit peu de poivre.
Et maintenant, on s'occupe de la farce. On va mettre les gésiers du faisan, les foies, on va le pousser. On va y mettre un petit peu de vin prêche. Voilà. Et bien, il ne me reste plus qu'à farcir le faisan.
Ça en contient beaucoup, hein?
Ah, il se plaît, hein?
Et oui.
Alors, on va lui boucher le derrière.
Oui, avec quoi?
Avec un morceau de pain, tout simplement. Voilà. Tiens, regardez. Hop, constipé à vie.
Je ne sais pas si vous utilisez le faisan et si vous lui bouchez le derrière avec un morceau de pain, Timo Villanova. Mais il y a des choses aujourd'hui qu'on fait moins. Il y a c'est cette recette quand même à base de ventrèche, de champignons, de
disons qu'on cuisine moins l'ortolan, oui.
Voilà, il y a des modes qui évoluent aussi.
Bah, il y a en fait, moi je suis pas sociologue de la gastronomie. On perd la technique. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se tournent vers nos livres ou vers les contenus sur YouTube parce que on sait pas faire, on sait plus faire, on apprend plus à faire. Jusque dans les années 80, on enseignait aux femmes uniquement, et il y a beaucoup à dire là-dessus, mais à faire à manger à l'école. On enseignait et aujourd'hui les groupes de la restauration, ils fournissent les écoles, donc ils ont pas spécialement intérêt à ce qu'on enseigne à faire à manger. Les techniques se perdent, les produits se perdent. Tout ça évolue. La chasse, c'est moins accessible. Le gibier en ville, pour ceux que ça intéresse et qui veulent en manger, c'est extrêmement cher. Donc, c'est plus accessible. On sait plus les cuisiner, on les travaille pas. C'est pas tant une question de mode qu'une question de perte de savoir et de rupture de la chaîne de transmission.
Alors, on a beaucoup parlé de la cuisine d'hier avec les hommes préhistoriques, les Mayas, mais la cuisine de demain, Éric Birlouez, elle ressemblera à quoi selon vous ?
Alors, vous savez, quand on m'interroge effectivement sur l'alimentation de demain ou la cuisine du futur, j'ai toujours envie de dire, mais il faut utiliser le pluriel, les alimentations du futur, les cuisines de demain. Parce que c'est ça que l'on peut voir d'un point de vue sociologique aujourd'hui. C'est qu'il y a un incroyable éclatement, morcellement, des styles d'alimentation. Donc il y a des gens qui veulent manger, par exemple, sans viande, alors ça, c'est pas beaucoup, c'est 1,1%.
Ce que nous dit Hélène sur Facebook, hein, vous évoquez beaucoup les plats carnés, mais il n'est pas forcément toujours possible et même souhaitable de manger de la viande à tous les repas. Qu'en est-il de la cuisine végétarienne ?
Oui. Alors, qu'en est-il ? Alors, vous savez, en France, il y a une culture alimentaire qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des Français, je n'ai pas dit la totalité, souhaite continuer à manger de la viande, mais avec des exigences, et ça va être manger moins de viande, mais une viande de meilleure qualité, dont on connaîtra, on l'a dit, hein,
l'origine, la provenance,
etc. Mais aujourd'hui, les Français ne basculent pas du tout dans le végétarisme. La dernière enquête très sérieuse faite à la fin de l'année 2020 montrait que dans la population française, vous avez 1,1%, pas plus, de végétariens.
On arrive à la fin de l'émission. Merci à tous les trois, à tous les quatre d'avoir été avec nous en direct aujourd'hui. Demain, vous retrouverez le maître des lieux Ali Rebéi à 10h sur France Inter pour une émission consacrée au plaisir de lire Agatha Christie.